qui nous rejoignent, sachez que ce matin, nous allons aborder, et si la vidéo est prête, nous allons aborder la dernière partie du livre du prophète Habacuc. Le sous-thème de ces deux prédications de dimanche dernier et de ce dimanche, c'est du pourquoi au pourtant. Et en guise de rappel, c'est la slide suivante. La semaine dernière, nous avons rappelé que le prophète Habacuc, dont on ne sait pas grand-chose de la vie, de sa vie privée, est un prophète qui a crié sa plainte autour du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il a prophétisé au sein du peuple de Juda. Ce peuple traversait une période incertaine, une période qui charrie beaucoup d'angoisse, d'inquiétude. Ce peuple était confronté à une double crise, en quelque sorte. Dans le contexte interne, à l'intérieur de Juda, le prophète voyait une telle crise morale et spirituelle qui se manifestait par un certain nombre de symptômes. La loi de l'Éternel était bafouée. Les gens ne se conduisaient plus selon les paroles de Dieu, mais ils se conduisaient un peu chacun à sa manière. Et cela avait des conséquences, parce que lorsque l'écriture est bafouée, lorsque nous perdons de vue la perspective de Dieu, cela a toujours des conséquences. Et cela a toujours des conséquences, non seulement sur nous, mais sur les autres. Parce que voyez-vous, lorsque la parole de Dieu est abusée, alors il n'y a plus de frein contre toutes sortes d'abus. Parce que dans les abus, le premier abusé, c'est toujours le Seigneur. Parce que ses droits de Seigneur, ses droits d'autorité ne sont pas reconnus. Et si tu es peu abusé de Dieu, si tu peux abuser de la parole de Dieu, qu'est-ce qui va t'empêcher d'abuser d'un homme, d'une femme, de la parole d'un être humain? Et parce que le peuple avait perdu de vue l'exigence d'amour du prochain, l'exigence de justice sociale, alors Habacuc voyait les injustices sociales et la violence se répandre et gangréner le corps du peuple de Dieu. Et il y avait également une menace externe. Habacuc voyait la puissance des néo-babyloniens, les Chaldéens, qui étaient en train de monter en puissance et qui avaient déjà défait les puissances qui étaient avant eux. Et ils voyaient cette puissance arriver, ces hommes redoutables, et ils sentaient la menace proche de son peuple. Ils ressentaient que Dieu allait peut-être utiliser ce peuple pour les corriger. Et ça l'a profondément troublé. C'est pourquoi dans les deux premiers chapitres du livre du prophète Habacuc, il pousse une plainte, un cri déchire le ciel de son temps, jusque à quand? Il est troublé par cette question de la justice de Dieu. Seigneur, comment sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés là? Comment un Dieu bon et juste comme toi permet-il le mal au sein de ton peuple? Et puis surtout, Seigneur, si tu veux nous corriger, pourquoi avoir recours à un peuple encore plus mauvais que nous? Un peuple sans pitié, un peuple sans éthique, qui massacre les autres. Et le Seigneur a répondu à Habacuc à deux reprises à ces deux plaintes. Et dans la première réponse, le Seigneur lui a dit, dans des temps difficiles, quand les fondements sont ébranlés, quand les normes sont écartées, que les écarts deviennent des normes, quand les hommes boitent des deux pieds, quand un aveugle conduit un aveugle, alors entends bien Habacuc, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi, Habacuc 2. Mais s'il se détourne, mon cœur ne prend point plaisir en lui. La deuxième réponse de l'Éternel, c'était dit, écris. Écris cette réponse. Il y a des moments dans nos vies où Dieu nous parle et nous avons besoin d'écrire. Je me souviens quand Dieu m'a parlé pour ce ministère pastoral. Je me souviens quand les frères et sœurs me donnaient des paroles pour m'encourager à accepter cet appel. Je les ai écrites. Je les ai photocopiées. Et quand je suis venu il y a 23 ans dans ce beau pays, jeune de 23 ans, avec 40 kilos, je pense qu'il y avait 10 kilos d'écriture de ce que le Seigneur m'avait dit pendant 23 premières années de ma vie. Je les garde précieusement et je crois que chacun de nous a dans son histoire, quelque part, des paroles reçues et écrites. Des paroles qui ont accompagné sa vie. Et Dieu dit à Habacuc, écris, cette parole est certaine et digne d'être reçue. Et la parole qu'il annonce à Habacuc n'est pas la promesse d'un lendemain qui chante d'abord, mais la promesse d'un Dieu de justice qui va effectivement corriger d'abord son peuple. Mais il y a de l'espérance. Mais il y a de l'espérance. Quelle est la parole de Dieu certaine que tu as reçue, qui est un repère dans les tempêtes, qui reste une petite lumière dans les ténèbres de ta vie? Cette parole est certaine, la parole de Dieu est toujours certaine et digne d'être reçue. Ce matin, nous voulons voir comment Habacuc est passé de la plainte, du pourquoi douloureux, au pourtant joyeux. Et mon espérance, c'est que nous aussi alors, nous puissions, comme Habacuc ce matin, passer du pourquoi douloureux, par la grâce de Dieu, au pourtant joyeux. Lisons, et le texte ne va pas s'afficher, mais les références sont sous vos yeux. Habacuc chapitre 3, versets 1 à 3, d'abord. C'est le dernier chapitre, il n'est pas long, c'est 19 versets, mais nous n'allons pas les lire d'un trait, parce que bon, voilà, c'est quand même un peu lourd. Prière du prophète Habacuc sur le mode des complaintes. Prière du prophète Habacuc sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Oui, Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de tes mains, le Saint vient des monts de Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. J'aimerais souligner trois points qui sont résumés ici dans la slide suivante. On peut d'abord constater que le prophète Habacuc ne se pose plus de questions, ou en tout cas ne soulève plus des questions qu'il adresse à Dieu. Maintenant, il va rejoindre Dieu là où Dieu lui a dit qu'il se tient. Si vous vous souvenez, la fin du chapitre 2 se termine par « L'Éternel est dans son saint temple, que la terre fasse silence. » Et vous vous souvenez que Habacuc au chapitre 2 aussi avait dit « Je vais rester à mon poste. » Je vais attendre en silence ce que le Seigneur va me dire. Eh bien maintenant, Habacuc n'est plus dans le pourquoi, mais il est dans la prière. Et voilà pourquoi le texte commence en disant « Prière d'Habacuc sous le mode de la complainte ». Une sorte de prière, un chant traversé par l'expérience de la douleur. Un chant traversé, une prière traversée par l'expérience de la douleur, de la détresse, de l'angoisse, mais prière devant le Dieu majestueux qui est dans son sanctuaire. La deuxième remarque que nous pouvons faire ici, c'est de voir le cheminement d'Habacuc de la perplexité, du trouble, de l'incompréhension de ce que serait cette justice de Dieu qui permet le mal, sans en être responsable du mal, bien entendu, de ce que serait ce Dieu qui choisit de laisser pour un temps son peuple sous la domination d'un peuple encore plus mauvais. Habacuc est passé de cette perplexité à l'acceptation. Parfois nous luttons avec des événements de nos vies. Parfois nous luttons avec des épreuves de nos vies. Parfois nous luttons avec le mal subi et, ça continue de nous limer, de nous miner. Parce que nous continuons de lutter sans l'acceptation de l'épreuve. Il y a un moment où nous devons laisser nos vies être traversées par l'épreuve. Nous laisser en quelque sorte faire, sans cautionner jamais le mal. L'Écriture ne nous y incite pas. Mais Habacuc sait que maintenant il doit admettre la justice de Dieu. Il ne voit plus ce jugement de Dieu selon la perspective humaine. Mais il a réussi à travers la prière à arriver du point de vue de Dieu. Et du point de vue de Dieu, il admet que ce Dieu juste ne peut laisser impuni un peuple qui s'enfonce dans une crise spirituelle et morale. Il comprend que Dieu est juste, il est souverain, il peut même utiliser un peuple plus mauvais que le sien pour corriger les nations, pour corriger son peuple. Habacuc admet le jugement de Dieu à travers les Chaldéens. La troisième chose que nous fait découvrir ce début de prière, c'est que Habacuc ne dit pas au Seigneur, change d'avis, tu t'es trompé. Vous savez, parfois j'entends des prières, et moi-même parfois je prie comme ça, et je me dis, mince, arrête-toi. Tu n'es plus dans que ta volonté soit faite. Tu es déjà en train de dire au Seigneur ce qu'il doit faire. Combien de nos prières ne dépassent pas le plafond de nos chambres, de nos maisons, parce que nous disons à Dieu ce qu'il doit faire. La Bible nous dit que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez, vous demandez mal. Mais c'est quoi demander mal? Dans ce contexte, c'est demander, non pas que la volonté de Dieu se fasse, mais demander que nos désirs, nos volontés à nous se fassent. Mais il est Seigneur, nous l'avons chanté. Ce n'est pas nous qui sommes Seigneur. Il est Seigneur. Et Habacuc a dû cheminer pour dire, malgré la crainte, qu'arrive, Seigneur, ce que tu as décidé dans ton décret, souverain. Que ce que tu as annoncé s'accomplisse. Et ce qu'il a annoncé s'accomplira, même après Habacuc, puisque le siège de Juda sera fait. Le siège de Samarie arrivera en 587. Avec toutes les conséquences et tous les traumatismes. Habacuc n'a pas cherché à aller contre la volonté de Dieu, quand bien même ce que Dieu avait annoncé n'était pas un lendemain qui chante. Est-ce que ma prière est un lieu de consentement à la volonté de Dieu? Ou est-ce que je suis dans une croyance que ma prière consiste à faire changer Dieu d'avis? Pendant longtemps, j'ai jeûné et prié. Non pas que je sois contre le jeûne et la prière, la Bible le dit, c'est biblique. Mais pendant longtemps, j'ai cru que, en jeûnant, j'allais apitoyer Dieu et changer le cours de la souveraineté de Dieu. Il m'arrivait de jeûner 3 jours sans manger, sans boire, pensant que Dieu me parlerait plus fort dans ce contexte-là. Mais sans rien nier à l'importance des disciplines spirituelles, je pouvais jeûner 40 jours, ne changerait pas le décret souverain de Dieu. Mais par contre, Dieu va vous changer. Dieu va vous faire entrer par sa grâce dans son souverain destin. Il va vous faire entrer dans votre destinée. Jésus-Christ a prié pendant 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière, nous dit Matthieu chapitre 4. Le jeûne et la prière ne l'ont pas mis à l'abri de la tentation du diable. Au contraire, il a été tenté. Mais il est sorti de cette tentation victorieux pour entrer dans son ministère public et dans sa destinée. Voilà pourquoi nous jeûnons et prions. Voilà pourquoi nous cherchons le Seigneur. Non pas pour faire pression sur lui, mais pour qu'il nous aide à entrer dans sa volonté et dans notre destinée. La suite, les versets 3 à 15 que je ne lirai pas pour des questions de temps, mais que je vous invite à lire. Habacuc entre dans sa prière alors qu'il vient de demander à Dieu de se souvenir de ses compassions comme un père qui corrige ou une mère qui corrige, mais pas pour tuer, pas pour casser. Il dit, tu vas nous relever. Et il se met à louer le Seigneur. Il présente le Seigneur comme un vaillant guerrier. Habacuc, quand vous lisez le texte, il présente Dieu comme étant invincible. Nous l'avons chanté, Dieu de l'impossible. et Habacuc, ce Dieu est invincible. Ce Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Il sort de Théman comme un vaillant guerrier qui se lance à la conquête des nations. Il est plus redoutable, nous l'avons entendu dans les prières. Il est plus redoutable que les Chaldéens. Ça me fait penser à cette parole de Jésus qui dit « N'ayez pas peur de ce qui tue le corps. N'ayez pas peur de ce qui tue le corps. Mais nous vivons pour le corps. Nous vivons pour gagner nos vies, manger dans le corps. Nous vêtir, le corps. Nous donner une maison, le corps. Acheter une voiture, le corps. » Et tellement de compromissions dans nos vies sont des compromissions parfois qui arrivent parce que nous ne voulons pas quitter notre sécurité, parce que ça va nous déséquilibrer et on ressentira les conséquences, y compris dans notre corps. Oui, quand tu perds ton travail, c'est une épreuve. Et tu peux avoir peur de dire, mais comment je vais continuer de pouvoir aux besoins? Tu as peur de ce qui va tuer le corps. Tu as peur de ce qui va mettre le corps en difficulté. Tu t'inquiètes pour ta maison. Tu t'inquiètes pour ton avenir. Tu as peur de ce qui tue le corps. Le système t'a façonné pour avoir peur de ce qui enlève tes sécurités. Je connais cette lutte, frères et sœurs. Je connais cette lutte. Et c'est pour ça que j'ai dit à un frère cette semaine, je suis pasteur en France des églises pauvres. Ça peut vous étonner, mais nos églises sont pauvres. Ce n'est pas moi qui le dis, et je crois que l'Apocalypse nous le disait déjà aussi en son temps. Mais nous nous croyons riches. Et le Seigneur nous invite à acheter un collyre, comme à l'église de Thyatire, à voir de ses yeux. Tu te crois vêtu, pourtant tu es nu. Tu te crois riche, pourtant tu es pauvre. Tu te crois fort, pourtant tu es faible. Pourquoi ce sont des églises pauvres? Parce que ce sont des églises qui ont refusé et arrêté pendant un certain temps de marcher encore par la foi. Parce que les choix les plus significatifs de nos vies restent malgré tout souvent des calculs pour notre confort. Et Dieu va nous mettre au défi. Quand on dit des choses plus grandes sont à venir, il va mettre certains de nous au défi d'enlever cette fausse béquille pour qu'il soit totalement notre sécurité. Le Seigneur va intervenir, dit Habacuc. Le Seigneur va intervenir, y compris à travers les Chaldéens. Mais il va intervenir pour sauver son peuple. Tu pries depuis je ne sais pas combien de temps. Et tu dis, jusque ça, quand Seigneur? Quand interviendras-tu? Et peut-être le Seigneur va te répondre comme Habacuc, je viens pour sauver mon peuple. Mais un peuple qui doit traverser une vallée de désillusion, une vallée de transformation. Voilà ce que le Seigneur fait voir à Habacuc pour son temps. À nous de réfléchir à ce que ça signifie pour notre temps. La prière d'Habacuc est une prière qui revisite l'histoire du peuple de Dieu. Quand nous prions, frères et sœurs, soyons à l'écoute de ce que nous prions. Soyons à l'écoute, bien sûr, de ce qui nous traverse, de nos émotions, de nos pensées. Nous sommes êtres humains. Mais la prière d'Habacuc, quand vous allez la relire, vous allez découvrir que cette prière est remplie de réminiscences de l'histoire de Dieu. Quand Habacuc prie, il a en tête le cantique de Moïse. Dans Exode 15, par exemple, lisons Exode 15. Celui qui trouve avant moi peut le lire. Mais il se trouve que je vais quand même le trouver avant vous. Alors, Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Et vous pouvez lire la suite. À quel moment est-ce que Moïse a composé ce cantique? Il a composé ce cantique à un moment charnière de l'histoire de Dieu. Quand il a expérimenté après l'esclavage et la servitude, que Dieu est un Dieu qui un jour, même après 4 siècles et demi, se souvient de ses promesses pour les accomplir. Et cette génération a vu le Seigneur ouvrir la mer et noyer l'impressionnant Pharaon et ses cavaliers. Vous pouvez lire Deutéronome 33, ou le psaume 18, ou le psaume 68. Je me crie, louez le Seigneur et je suis libéré de mes ennemis. La prière d'Habacuc, frères et sœurs, était une prière biblique, une prière centrée, enracinée dans la parole de Dieu. Il ne disait pas seulement ce qui lui venait à l'esprit, il ne disait pas simplement ce qu'il voulait entendre, mais il méditait l'histoire d'Israël, il méditait les paroles de Dieu, et on a des témoignages comme ça dans l'Écriture. On a le témoignage, par exemple, de la jeune Marie, dont l'Écriture nous dit qu'elle repassait dans son cœur les paroles du Seigneur. La dernière partie de la prière d'Habacouc, les versets 16 à 19, alors là, nous amène dans un feu d'artifice de joie. Là, on, ça y est, à partir du verset 16, ça y est, le pourtant est là. Habacouc n'est plus dans le pourquoi. Il a cheminé à travers les larmes. Il a cheminé à travers la prière. Il a cheminé dans la présence de Dieu. Et le voici maintenant, pourtant. Pourtant, et lisons ce que Habacouc dit dans Habacouc, chapitre 3, versets 16 à 19. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Vous me dites, mais où est la joie là-dedans? Arrive, ça arrive. Là, il est en train de dire, je manque dans la certitude de ce que Dieu a dit. Je ne suis pas dans le déni de la réalité. La foi n'est pas le déni de la réalité. La foi regarde la réalité, mais elle transcende le réel parce que le regard de Dieu l'accompagne. Elle sait que Dieu est aussi réel que les circonstances le sont. Et alors, malgré et en dépit plutôt de ses craintes, il n'y a pas un moment où il a arrêté d'avoir peur. Mais au milieu de ses nuits de peur, au milieu de ses craintes, il a dit, sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, il y aura de la stérilité, de la famine. La vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais, et pourtant, dans d'autres versions, verset 18, pourtant, moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les œufs. J'aime ces paroles. J'aime ces paroles. Si vous venez peut-être d'Afrique ou si vous avez écouté des Africains chanter, vous avez peut-être reconnu ce son. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il me fait marcher dans les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. C'est Habacouc. Est-ce qu'on se rappelle quand on chante ces chants? Qu'on chante ce qu'Habacouc a dit. Est-ce qu'on retient seulement la joie sans avoir fait ce parcours? On ne comprend pas l'explosion de joie d'Habacouc si on ne comprend pas d'où il part. La louange d'Habacouc, en dépit de ses craintes, en dépit de l'effroi qu'il a saisi, qui a pénétré à lui jusqu'à ses os, pour dire à quel niveau il a intériorisé le verdict de Dieu. En dépit de cela, Habacouc nous apprend que la foi, ce n'est pas la foi du charbonnier, la foi chrétienne. Ce n'est pas l'énergie du désespoir. La foi chrétienne, c'est le regard lucide sur le réel et le croire que Dieu intervient dans ce réel et est capable de le transformer. Amen. Ne rentre pas en disant que j'ai entendu que je suis à découvert, lundi mon compte sera rempli. C'est pas ce que j'ai prêché. Mais Dieu te dit, regarde ton découvert, et assieds-toi et réfléchis, comment est-ce que tu en arrives là, toujours et encore. Affronte ce réel, fais-toi aider, et je continuerai de pouvoir et de t'accompagner. Mais ça ne veut pas dire que pendant que je suis en train de parler, ton compte est en train de changer. J'ai vu des prédications dans certains milieux où le pasteur dit, ouvrez vos comptes dans vos applications, pendant qu'on parle, regardez, un miracle va se produire. Vous avez des gens manipulés qui disent, ouais, oui, j'ai reçu un virement. Mais le pasteur, dans ces milieux qui ne sont pas recommandables, a dit à quelques personnes, envoyez à un tel et à un tel un peu d'argent, parce qu'ils ont besoin des preuves que Dieu agit. Un évangéliste qui voulait crédibiliser son évangile quelque part en Afrique, « Yo, le Seigneur m'a révélé un poteau de guérison comme il avait montré dans l'Ancien Testament. Quand on touche ce poteau, il y a quelque chose qui se passe. » Et les gens, ils touchaient le poteau. Ah! Il y avait quelqu'un qui était planté et qui mettait juste le courant sur ce poteau. Et dès qu'on le touchait, ah! On dit, ouais, l'homme de Dieu a de la puissance. Il y a beaucoup de distractions et de divertissements qu'on voit aujourd'hui sur les plateformes et sur ces églises. Beaucoup de chrétiens, hélas, se font manipuler par de prétendus prédicateurs qui croient posséder le pouvoir de Dieu, mais qui en fait ne possèdent rien. Parce que seulement le Seigneur le possède. Et seulement le Seigneur intervient. Alors mes amis, Regardons un peu cette petite galerie de témoins. Je vais aller vite, je ne vais pas commenter, mais ce que Dieu a fait dans la vie de beaucoup de gens, il veut le faire pour nous encore ce matin. Beaucoup de gens de la Bible sont passés du pourquoi au pourtant. Je vais aller vite, juste en guise de rappel. Abraham et Sarah, la Bible nous dit qu'ils étaient âgés, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'héritier. Sarah a même rigolé en disant, c'est pas possible. Et pourtant, Dieu les a visités et Dieu a donné Isaac. Job dans l'épreuve injuste, dans la souffrance, il a dit, pourquoi suis-je né? Sa femme lui a dit, maudit Dieu, et l'affaire est terminée. Il a dit, je préfère maudire le jour de ma naissance. Pourquoi suis-je né? Et pourtant, tout au long du cheminement de son livre, à la fin, il va arriver quelque part et il va dire, et pourtant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Il est passé lui aussi du pourquoi au pourtant. David avait été choisi du milieu de ses frères pour être oint. Pourtant, pendant plus d'une décennie, il a fui Saül. Il n'a pas pu régner parce que Saül ne voulait pas lâcher l'affaire. Et il a eu peur pour sa vie. Et pourtant, Dieu a été fidèle. Et un jour, Dieu a établi David sur la maison d'Israël. David est passé dans le psaume 13 de pourquoi de jusqu'à quand à je me confierai en l'Éternel encore et encore. Psaume 13, vous pouvez lire ce psaume. Asaph, vous savez, je me souviens d'Asaph. Je me souviens, quand j'étais étudiant en fac de droit, un examen de deuxième année, droit des obligations, et je sèche. J'oublie les lois, et je ne peux plus faire ma dissertation et mon raisonnement juridique, parce que vous ne pouvez pas inventer la réglementation. Et je prie et je demande, Seigneur, rappelle-moi, fais revenir les souvenirs. Mais les souvenirs ne revenaient pas. Et je voyais des gens sortir des cartouches, des antisèches. Je les voyais noircir les pages de leur copie. Et mon cœur était indigné. Mon cœur était indigné. Et je suis rentré chez moi en sachant que j'avais raté cette matière. Et le lendemain matin, en ouvrant mon guide de méditation quotidienne édité par la Ligue de la lecture de la Bible, le texte de ce lendemain matin, c'était le psaume 73 d'Asaph. Et j'ai lu ce psaume et je me suis senti compris. Parce que Asaph nous pose la question, mais pourquoi les tricheurs, les injustes réussissent-ils? Mais pourquoi eux, ils réussissent? Et en plus, ils ne sont pas humbles. Ils se baladent, ils se montrent, là, pourquoi? Alors, tous ceux qui réussissent n'ont pas triché, c'est pas ce qu'Asaph dit, de loin pas, certains ont beaucoup travaillé. Mais ils s'interrogent à ceux-là qui ont réussi en trichant, à ceux-là qui ont réussi en grugeant, et qui disent, ah moi je suis le plus malin, je m'en suis sorti pas mal. Et Asaph dit que quand je me suis retiré, quand j'ai médité sur leur sort, j'ai compris qu'ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et il a dit, mais j'étais déraisonnable, quand mon cœur était abattu, quand je disais, à quoi bon, pourquoi ai-je purifié mon cœur et mes mains? Pourquoi ai-je choisi la sainteté de Dieu? Il m'a montré qu'à la fin ne justifie pas les moyens. Et qu'un jour, ils seront confondus. Et alors Asaph a dit, moi ma part, c'est de m'approcher de l'Éternel. Moi ma part, c'est de m'approcher de l'Éternel. Que Dieu soit notre héritage. Que Dieu soit notre partage. Et peut-être parfois, ça va nous coûter de l'argent. Et peut-être parfois, ça va nous coûter une promotion. Et peut-être parfois ça va nous coûter un confort parce que nous nous sommes tenus du côté de la vérité, du côté de la sanctification et non du côté de la compromission. Asaph est passé du pourquoi être réglo au pourtant ma part c'est le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va passer aussi du pourquoi d'Asaph au pourtant? Dans les familles, tant d'injustices, tant de guerres parfois haineuses, fratricides. Joseph, un jeune homme, l'a connu. Ses frères, injustement, l'ont vendu, l'ont jeté même dans une fosse, l'ont vendu. Et pendant des années, il a dû se demander, mais pourquoi Seigneur, tu permets ça? Pourquoi? Il a refusé de se compromettre dans une histoire d'adultère. Récompense, il est envoyé au fond du cachot. Pourquoi? Et pourtant, Joseph va être restauré. Et un jour, quand il verra ses frères, il dira, vous avez pensé en mal. Vous avez agi en mal. Et pourtant, Dieu pensait en bien. Et Dieu a changé, à travers les circonstances douloureuses, mon sort en bien. J'aime pas trop la traduction qu'il a changé le mal en bien. Ça me pose un peu problème. Il a agi en bien dans des circonstances où il y avait le mal. Et non seulement quand il agit en bien, ça change la vie de Joseph, mais ça change aussi la vie de ses frères et sœurs. Ruth était étrangère. La Moabite, un peuple ennemi du peuple d'Israël. Et en plus, elle a été veuve. Elle n'avait plus rien. Et elle a dû se dire, pourquoi ? Naomi a dit, rentrez chez papa et maman. Et pourtant, Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Jérémie, le prophète, il ressemble peut-être le plus à Habakouk, était un jeune prophète qui a exercé un long ministère. Et il n'a été pas compris et il a été persécuté par son propre peuple, jeté même dans une citerne, laissé pour mort. Il a écrit non seulement les livres de Jérémie, mais les Lamentations. Il a dit que je suis l'homme qui est broyé, qui jour et nuit est dans l'amertume. Mais dans Lamentations chapitre 3, il dit, et pourtant, ce que je veux garder dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. C'est qu'elles se renouvellent chaque jour. Il est passé du pourquoi au pourtant. L'apôtre Paul a vécu l'épreuve de la maladie. On ne sait pas très exactement la nature de celle-ci, mais il avait son écharde dans la chair. Et il nous dit lui-même dans 2 Corinthiens, j'ai prié 3 fois. 3 fois il a dû supplier. 3 fois il a dû dire, pourquoi Seigneur, cette épreuve qui ne me rend pas complètement à 100% performant dans mon ministère. Peut-être, j'en sais rien. Quels étaient ses mots? Quelle était la nature de son trouble? 3 fois j'ai prié. Et pourtant, il a répondu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Dieu ne répond pas toujours à nos désirs, mais il tient toujours ses promesses. J'aimerais conclure en nous laissant 5 pistes concrètes pour passer nous aussi du pourquoi au pourtant. D'abord, oser crier sa plainte à Dieu. Ça, c'est ce que le parcours du livre d'Habakouk nous a montré. Combien de chrétiens sont culpabilisés parce qu'on leur dit, bah, toi, tu te plains toujours. Et c'est vrai qu'il y en a qui se plaignent toujours, parfois un peu trop. Mais par contre, ce qu'on devrait leur dire, c'est que nous ne sommes pas les dépositaires de leurs plaintes. Il y a un lieu où ta plainte ne fatigue personne. Ta plainte peut fatiguer les frères et sœurs. Mais il y a une personne que ta plainte ne fatiguera pas. Cette personne, c'est le Seigneur. Et voilà pourquoi je t'encourage, mon frère, ma sœur, à t'approcher du trône de grâce et à crier ta plainte, parce que Dieu nous donne un lieu pour nos plaintes. Et il nous donne une promesse dans Psaume 34:6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses frayeurs. Mais quand un malheureux crie, le pasteur n'entend pas toujours. Le frère et la sœur n'entendent pas toujours. Soyez indulgents, et parfois parce qu'eux-mêmes sont en train de crier. Mais par contre, ensemble, nous sommes encouragés à aller devant le trône de grâce et à crier notre plainte. Dietrich Bonhoeffer l'a dit, Dieu n'exauce pas toujours nos désirs, mais il accomplit toujours ses promesses. Il ne te répondra pas peut-être exactement comme tu attends, comme tu espères, mais il te répondra dans la fidélité de qui il est. Deuxièmement, souvent nous sommes dans le monologue. Nous entrons dans un temps de prière et nous remplissons l'espace de la prière dans le monologue. Nous parlons, nous parlons, nous parlons. Et la Bible nous donne un exemple et parfois c'est nécessaire. Vous souvenez, Anne et Samuel, quand elles montent au temple, qu'elles se mettent là, qu'est-ce qu'elle a parlé? Élie s'est dit, mais elle a dû boire du vin pour rester comme ça et parler tout le temps. Elle doit être ivre. À un moment donné, il dit, eh oh, assez parlé, va cuver ton vin ailleurs. Ah, si moi je disais ça, je ne vous dis pas, le conseil serait en réunion des crises tout de suite. Hein. Mais ça c'est aussi dans la parole de Dieu. Hein. Et ce n'est pas un exemple là, ce que Élie a fait. Mais vous voyez comment ceux qui ont servi le Seigneur le servent, y compris avec leur humanité. C'est un ratage de lit comme j'en fais. Pardonnez-moi, je ne suis qu'un homme. Mais on peut se corriger, on peut se remettre en question. Et elle va dire à Élie, mon Seigneur, ce n'est pas le vin. Mon cœur est rempli de détresse. Chaque année, je viens au temple. Et chaque année, je souffre. Je ressens la compassion et la souffrance de celles qui connaissent ce problème d'infertilité, de difficulté à donner la vie. Et là, Élie se remet en question. Il écoute le Seigneur. Et il engage sa foi. Va en paix. Et l'année prochaine, quand tu reviendras, le Seigneur aura changé ta vie. Nous devons être cette communauté-là. Une communauté où l'écoute du frère et de sa souffrance est possible. Où l'écoute de l'autre, mais surtout l'écoute de Dieu ensemble. Une communauté de l'accueil et de la compassion. Nous ne savons pas les combats que chacun mène. Vous ne savez pas le combat que je mène quand je suis sur la chair. Je ne sais pas tous nos combats et tous vos combats non plus. Mais que de paroles parfois difficiles à accueillir. Est-ce que nous pouvons entrer dans cette année avec une autre perspective et se mettre réellement à l'écoute de Dieu avant de parler à un frère, à une sœur, à son pasteur? Et alors peut-être nous comprendrons ce que le Seigneur a révélé à Élie. Comment aider l'autre à passer du pourquoi au pourtant? Pas du pourquoi du jugement, pas du pourquoi du soupçon, pas du pourquoi de l'indexation, mais du pourquoi au pourtant. Je vais me placer, dit Habacuc, à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Non pas comme un adversaire, mais comme une sentinelle. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité de nous poster en avant-garde et de dire au Seigneur, parle-nous dans les temps comme celui-ci. Parle, Seigneur, à mon frère, à ma sœur. Parle à moi, Seigneur. Montre-moi si je suis sur une bonne voie ou pas. Ça, c'est David qui priait comme ça. Nous avons besoin pas seulement de parler au Seigneur, mais d'écouter le Seigneur. Et peut-être que c'est le besoin le plus urgent pour l'Église dans ces temps, d'écouter à nouveau. Écoute Israël, écoute Église aussi, le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur est un. Est-ce que je vais prendre des temps d'écoute du Seigneur pendant cette année? Est-ce que je vais consacrer plus de temps isolé, calme, à écouter le Seigneur? Si je veux passer du pourquoi au pourtant, il me semble que je dois passer par l'écoute de Dieu. La troisième chose, c'est prendre position en marchant par la foi et non par la vue. Si nous voulons ne plus être ces églises pauvres, la vidéo peut suivre peut-être. C'est prendre position, merci beaucoup ma sœur, en marchant par la foi et non par la vue. Car mon juste vivra par la foi. Si ce détour de mon âme ne prend plus un plaisir. Corinne Ten Boom, qui a écrit Dieu en enfer, nous dit ne crains jamais de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. Nous savons et nous connaissons par sa grâce le Dieu qui nous a aimés le premier, le Dieu qui nous a appelés à marcher à sa suite. Et nous savons qu'il est fidèle. Cultiver, quatrième point, la gratitude en célébrant les bontés de Dieu. Nous sommes connus en France, je ne sais pas pourquoi. Tu vas à l'étranger, ah, il y a encore des grèves, mais oui, c'est toujours la France. Nous sommes connus comme les plus râleurs du monde. Ce n'est pas toujours heureux. Mais dans l'Église aussi, nous pouvons être connus comme les plus râleurs. Un président a même eu le malheur de dire un peuple réfractaire. Ça lui colle à la peau, hein. Je ne me risquerai pas là non plus, hein. Mais il y a quelque chose que l'Écriture nous donne, une autre culture que l'Écriture nous donne. Un vieux chant le disait toujours, le disait déjà, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, au lieu de devenir amer, au lieu de mordre les autres, relis ta vie, compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est ce que Jérémie a fait. Je veux repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Ça ne sert à rien de ressasser les histoires du passé. Ça ne sert à rien de ressasser les blessures. Ça ne sert à rien de ressasser les accroches. Ce qui donne de l'espérance au cœur et à l'Église, c'est de se dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est fidèle et de dire comme Habacuc, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est de cultiver la gratitude. Dans l'église, quand tout va bien, on n'entend pas beaucoup merci. Dans toutes les églises où je suis passé, c'est souvent le cas. On ne rivalise pas de compliments. Mais lorsque la vidéo bug, ah, c'est terrible. Lorsqu'il y a un petit changement, ah, c'est terrible. Non, cultivons la gratitude. Merci frères et sœurs qui pendant l'été avaient pris de votre temps pour rafraîchir la salle de culte. Merci frères et sœurs qui lundi après lundi, depuis des années, vous levez. Le matin, j'étais là lundi dernier, ouvrir une porte pour nettoyer la salle, les toilettes, etc. Merci frères et sœurs du témoignage, évangélisation alpha et autres, vendredi. Merci frères et sœurs. Rivalisons de gratitude, frères et sœurs. Et puis, dernier point, persévérer dans la communion fraternelle et garder les yeux fixés sur Jésus. Nous allons conclure notre culte avec le repas du Seigneur. Et je l'introduis maintenant en conclusion de ce message aussi. L'une des clés pour traverser l'épreuve, c'est de rester dans la communion de Jésus. Et on ne peut pas rester dans la communion de Jésus en rejetant la communauté de Jésus. Jésus a lié sa vie pour toujours à l'Église. Il est la tête de ce corps. Tu ne peux pas cultiver ta relation spirituelle avec Jésus et te couper de toute communauté chrétienne. Si tu es dans cette situation, et quel que soit ce que tu as vécu, j'aimerais t'exhorter à retrouver par la grâce de Dieu une communauté chrétienne, une église locale qui va t'accompagner. Peut-être ce n'est plus possible de rentrer dans la même, mais ne reste pas sans communauté. Parce que c'est dans le cadre de la communauté des enfants de Dieu que l'apôtre Paul nous exhorte à porter nos fardeaux les uns des autres. Ne reste pas seul. Et c'est à la communauté église que Jésus a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, retrouvons-nous sous mon joug. Parce qu'il est beaucoup plus léger quand on le porte avec le Christ. On ne peut pas le porter seul. Et lui aussi, il est passé du pourquoi au pourtant. Devant l'abandon et l'injustice de Gethsémané, alors que ses disciples lui avaient tourné le dos, et qu'arrivait l'heure de l'épreuve ultime de sa mort, il a crié au Père dans l'agonie de Gethsémani. Et même à la croix, il a crié le psaume 22. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'était pas abandonné, le Père n'a pas abandonné le Fils. Mais à travers la mort du Fils, le Père est allé jusqu'au bout pour chercher ses enfants. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler maintenant en partageant le pain, en nous attendant aussi les frères et sœurs, pour ensemble passer du pourquoi au pourtant. Poussé par Jésus qui dit, regardez mon exemple. J'ai crié aussi ce cri-là, mais la vie a triomphé. Il est mort et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. J'invite les personnes qui ont été missionnées à servir le pain et le vin à venir. J'invite aussi le groupe Louange pour nous accompagner dans un chant, pour accompagner ce moment. Je nous propose de prendre le pain et le vin et de nous attendre quand c'est possible. Je rappelle, prendre le pain et le vin et de nous attendre. Ce n'est pas toujours facile, on a nos automatismes. Parfois on le prend, mais hop. Et il n'y a pas de problème si ça vous arrive, ce n'est pas un scandale. Simplement, symboliquement, nous voulons nous attendre pour passer ensemble de ce pourquoi au pourtant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole, pour les témoins bibliques qui nous ont précédés. Et nous voulons en ce moment te rendre grâce pour cette table que tu as préparée pour nous. Elle nous aide, Seigneur, à faire mémoire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a lui aussi traversé le pourquoi jusqu'au pourtant du salut et de la rédemption. Abandonné, méprisé, il a donné sa vie à la croix, afin que ceux qui croient ne périssent point, mais qu'ils aient la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous nous souvenons de ton chemin et nous avons besoin de tes forces par le Saint-Esprit. En partageant ce pain et ce vin ensemble, nous te prions de venir redonner de la vie à nos liens, à notre communion, de venir nous secourir en tant que communauté et de secourir chacun aussi individuellement dans ses problématiques de vie. Merci Seigneur pour les signes de ta grâce, ce pain et ce jus des raisins que nous voulons partager en mémoire de toi.